RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, on se faisait un plaisir de voir les magiciens fidjiens défier notre belle équipe de France. Malheureusement, le Covid est passé par là, match annulé, internationaux renvoyés à la maison et grosse frustration en prime à tous les étages, que ce soit du côté des Bleus comme de celui des clubs du top 14. On revient sur cette annulation et ses conséquences dans un instant. Si les Bleus ont été privés de dessert, les Pumas argentins, eux, ont décroché la lune en allant s'imposer pour la première fois de leur histoire en Nouvelle-Zélande face aux Blacks. Victoire historique pour notre frelon du week-end, Nicolas Sanchez, l'ouvreur des Pumas, auteur de tous les points de son équipe. Et pendant ce temps-là, sur les terrains du top 14, les week-ends se suivent et la colère des castrés reste identique, mais pas pour les mêmes raisons. On reviendra tout à l'heure dans notre boîte à gifles sur le coup de chaud de Thomas Combezou, le trois-quarts centre tarné, très remonté contre l'arbitrage et qui risque une lourde sanction pour ses propos. Heureusement, chez nous, entre les potons, on ne risque pas de suspension pour nos propos, ou alors faudrait vraiment y aller très fort, mais sait-on jamais, remarqué avec Denis Charvet. Denis Charvet bien lancé comme un frelon, Ça peut arriver,
ça m'est déjà arrivé.
Nos francs-tireurs, les snipers d'RMC Sport sont également de la partie. J'ai nommé Wilfried Templier et Pierre Amiche. Salut les gars.
Salut.
Bonjour à tous.
Avant la prise d'antenne, on s'est rendu compte que Wilfried Templier était bien lancé. Je pense qu'il peut nous sortir des trucs qui pourraient les valoir à quelques cartons rouges dans les semaines à venir. Et on va voir tout de suite, messieurs, si vous êtes en canne, car c'est l'heure de la première mêlée des poteaux.
Action, liège.
Alors je le disais il y a un instant, c'est un sentiment de frustration qui s'est emparé du rugby français vendredi à la mi-journée. Tout le monde attendait avec impatience de voir comment notre jeune et talentueuse équipe de France allait se comporter face aux magiciens fidjiens, ce qui représentait sans doute, et pour ma part, le match le plus excitant finalement de cette tournée d'automne. Oui. Mais l'excitation elle est retombée d'un coup lorsqu'on a appris qu'en raison de plusieurs cas de Covid positifs dans les rangs fidjiens, le match était annulé. Les Fidjiens ont bien tenté de demander un report, mais vu la situation actuelle et le peu de dates disponibles, cela n'a évidemment pas été possible. Les Fidjiens sont donc allés se confiner, se soigner, en espérant que le Covid sera disparu de leurs organismes, car dans quelques jours, ils vont jouer face à l'Italie. Et les Français, quant à eux, ils ont été renvoyés manu militari dans leur pénat et à leur club pour un petit week-end. Alors, naïvement, on aurait pu penser que les coachs en club allaient se jeter sur l'occasion pour les titulariser. Eh bien, mis à part le cas particulier de Bobigny, le talonneur du Racing, seul talonneur disponible au sein de l'effectif francilien, les autres coachs ont fait sans leur star. Xavier Garbajosa, l'entraîneur de Montpellier, s'en est expliqué au micro d'Arnaud Souk à l'issue de la défaite Montpellier-Rennes à Bayonne.
Je fais quoi ? Je les mets dans l'avion ce matin, alors qu'ils n'ont pas pris part toute la semaine d'entraînement, même si on était un petit groupe, par la stratégie. Et puis quelle envie, quoi. Même s'ils sont à la disposition des clubs, parce qu'ils sont grâce à l'équipe de France, grâce au club, même s'ils sont à notre disposition. Quel intérêt de mettre des garçons un peu forcés et qui avaient, d'autres objectifs, d'autres ambitions avec l'équipe de France qui ont été annulées, la décompression faisant, voilà, et puis surtout le respect par rapport au groupe qui avait préparé tout le match, toute la semaine, le match de Bayonne. Ça me paraît logique.
Moi, je trouve que c'est très intelligent parce que par le passé, il y a eu justement de l'abus dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on faisait jouer les joueurs qui étaient disponibles, on les mettait à tout prix. Alors peut-être qu'aujourd'hui, parce qu'il y a plus, les effectifs sont plus larges. Donc, ça peut être la raison pour laquelle on presse.
Montpellier à Bayonne, feuille de match de Montpellier à Bayonne, mon cher Denis, l'effectif plus large, ils ont fait jouer beaucoup de jeunes. Hein,
oui, mais
avec les blessés et les internationaux absents.
Oui, mais dans la logique de Garbajosa, c'est de respecter le groupe
aussi,
qui est mis en place.
Alors,
aussi.
Respecter les joueurs qui ont préparé la rencontre. Et puis, il faut dire que le calendrier était quand même un peu ric-rac, hein, parce qu'ils l'ont appris que la veille, au dernier moment. Donc, c'était quand même compliqué de faire jouer ces joueurs-là. D'autant Wilfried, que du côté de l'équipe de France, on a aussi fait passer quelques messages avant de renvoyer tout ce petit monde dans ces clubs.
Oui, on leur a dit, s'ils jouaient en club, ils prenaient leurs responsabilités. On leur a demandé de faire de l'énergie par message. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et oui, on a quand même indiqué aux joueurs que ce serait mieux qu'ils jouent pas comme ça, pas de cette façon dont je le dis, mais avec les formes. C'était pas les encourager à aller dire à son entraîneur de club, moi je veux jouer.
Ouais. Alors on peut aussi comprendre les intérêts du staff des Bleus, mais la décision soudaine et ses consignes semblent avoir été plutôt mal vécues. Du côté des clubs, hein, même si personne ne s'est exprimé définitivement, mais enfin on sent qu'il y a quand même de l'agacement, Wilfried.
Ouais, ça n'a pas transpiré hein, ce week-end, mais on peut vous dire que beaucoup de managers n'ont vraiment pas apprécié, notamment de se retrouver mis devant le fait accompli parce que les internationaux ont été libérés vendredi à la mi-journée. Mais ils se murmurent que dès la veille au soir à Marcoussis, on avait vent de cette annulation du match. Hein. Et c'est pareil à la Ligue. Vous savez qu'il y a des accords sur 3 feuilles de match hein, pour chaque international. Mais côté FFR, on a, dès l'annulation de la compo d'équipe vendredi midi, nous on l'a su quelques minutes avant, on a rapidement fait fuiter l'info qu'il n'y aurait pas de match et qu'en même temps, les mecs étaient en train de quitter Marcoussis en voiture, ça se voyait qu'il n'y avait pas de match. Et surtout que ce même groupe reviendrait le lundi à Marcoussis et jouerait face à l'Écosse. On a tout de suite dit ça, quoi. Donc, il faut bien comprendre que les Fidji, c'était normalement, après Galles-Irlande, la troisième feuille de match de l'accord FFR-LNR et que les clubs devaient voir revenir leurs meilleurs joueurs. Là, aujourd'hui, il prévoyait soit de leur donner une semaine de congé à ces internationaux, pour ceux qui n'ont pas de match au programme le week-end prochain, on pense à Toulouse, qui a joué tous ses matchs, qui n'a pas eu d'annulation, parce que c'est pas facile de donner des semaines de vacances. Hein. Ils doivent donner tout au long de l'année des semaines de vacances, il n'y a pas de place avec le calendrier. Soit de les faire jouer lors des matchs en retard, sont prévus entre vendredi et dimanche prochain, Montpellier-Castres, Stade Français UBB, Bayonne-Toulon et La Rochelle Racing. Donc, on aurait pu penser que les joueurs auraient pu jouer à ces matchs-là. Et on en reparlera aussi lors du prochain tournoi de destination, mais bien énervé, certains managers n'hésitez pas à glisser ce week-end qu'ils s'opposeront à ce que les clubs fournissent 42 joueurs pour le prochain rassemblement.
Oui, les vacances pendant le Covid aussi, pour les joueurs, c'est pas facile.
Ouais, alors
non, mais il faut bien qu'ils aient un peu de repos.
Oui, de repos,
ils ont tant de semaines de vacances et c'est obligatoire. Ils doivent leur donner avant telle date et c'est un casse-tête pour les entraîneurs.
Parce que les 42 joueurs, c'est pas un fait établi. Hein. C'est au bon vouloir des clubs.
C'est un accord entre la Ligue et la Fédé à un moment.
Ouais.
Donc il va falloir en rediscuter.
Ouais, c'est vrai que la négo s'annonce serrée. Alors il faut dire que les clubs, s'ils ont récupéré leurs internationaux ce week-end, n'ont pas pu les faire jouer en prime. Ils les ont vus repartir ce matin alors qu'ils devaient rentrer définitivement dans leur club. Tu le disais, Wilfried, certains devaient avoir une petite semaine de vacances. Mais du coup, ça va reporter tout ça à une dizaine de jours supplémentaires. Parce que là, ils sont tous revenus en équipe de France aujourd'hui. Hein.
Ouais, ils sont à Marcoussis, hein, ils étaient attendus aujourd'hui, donc ça peut décaler les choses, ça peut décaler une semaine de vacances, mais quand il y aura match, donc les clubs ne disposeront pas de ces joueurs, ça change un peu le programme, ou voilà, j'ai dit pour les matchs en retard, ne pas les utiliser, mais bon, après quand on entend Xavier Garbajosa, et Denis, tu as raison de le dire aussi, les mecs ils ont la tête à Marcoussis, ils ont le logiciel équipe de France dans la tête, on peut pas, ils arrivent le vendredi en fin de journée, on leur dit, et pour le respect des coéquipiers et pour eux, c'était pas très viable de les faire jouer, effectivement.
Surtout les Chamaillerie continue, ça fait maintenant 6-8 semaines qu'on a lancé le podcast, j'ai l'impression qu'on parle que de ça. C'est-à-dire que toutes les semaines, on a le problème entre la Fédé et la Ligue, entre la Ligue et les clubs, entre les clubs et la Fédé. Hein. Ça devient insupportable.
Bah oui, mais il n'y a pas eu de match, on aurait préféré nous analyser le match.
Bien sûr, c'est pas ça que je te dis. Christophe, le problème, c'est pas des choix qu'on peut faire en amont sur de quoi on va parler. Ben, on parle de ce qui fait l'actualité aussi.
Et
ce qui fait l'actualité. Oui, c'est vrai. Non, mais ce qui fait l'actualité, c'est ça.
Il nous dit faut de la polémique, les gars.
Vas-y, défonce-les. Non, mais c'est quand même terrifiant et moi, ça m'attriste parce que l'équipe de France, elle roule bien. On a des joueurs qui sont en confiance. On a un calendrier qui devrait nous permettre de nous éclater tous les week-ends. On a quand même des clubs qui, au niveau européen, sont pas mal. Et au final, on parle que du conflit entre la Ligue, la Fédé, la Porte, Gauze, les présidents, les machins. On s'éloigne vraiment de ce qui fait notre amour du rugby, le jeu. Et j'ai l'impression qu'on parle ça toutes les semaines. On a une équipe de France qui devrait nous unir. Dans 3 ans, c'est la Coupe du Monde chez nous. C'est ça, c'est là-dessus qu'on parle.
Là, surtout, on cherche des poux dans la tête de l'équipe de France. Enfin, de la fédération, c'est ridicule. Le match a été annulé au dernier moment. Donc comment tu veux que la fédération se retourne? On leur reproche quoi de l'avoir annoncé le vendredi au lieu du jeudi? Ça aurait changé quoi? Rien. Donc encore, c'est des polémiques qui ne servent à rien. Je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment des chamailleries des guerres intestines qui n'ont pas lieu d'être et qui continuent.
Ouais, malheureusement, ce qui reproche peut-être les clubs, c'est de dire voilà, les mecs sont relâchés, lundi ils sont à Marcoussis sans parler à la Ligue.
C'est le problème du contexte. Après, je trouve que le staff de l'équipe de France a bien fait de décaler la composition du Fidji contre l'Écosse. Je trouve que c'est plutôt intelligent. Et comme ça, après, ces joueurs-là, ils seront libres. Et puis voilà.
Ouais. Donc, tout le monde. C'est l'équipe type qui sera opposée donc, à l'Écosse, alors que ça devait être l'équipe, pas des coiffeurs, mais l'équipe.
Excepté Romain Tamac qui est blessé.
Ouais. Voilà, donc ce sera
au Mathieu Jalibert, au Carbonel.
Ce dimanche à.
En Écosse, à Édimbourg.
À Édimbourg. 16h. Sans aucun journaliste, messieurs, vous n'avez pas été.
Mais non, on est punis, mais on sera, je serai avec toi au studio, mon cher Christophe.
Voilà, écoute, ce sera, sera pas mal. Est-ce que c'est
une... pas sympa, il n'y a que les diffuseurs d'ailleurs. Pour,
oui,
pour
c'est info, vrai, tu as raison.
Ils sont trois apparemment à France Télévisions.
Ce qui n'est pas très logique non plus. Hein. Il y a une donnée qu'il faut prendre en compte, c'est que l'équipe qui va jouer avec l'Écosse, c'est pratiquement l'équipe qui avait perdu en Écosse il y a quelques mois.
Oui, oui, parce qu'on rappelle que l'Écosse, c'est la seule,
c'est, la revanche,
c'est le seul accro pour l'instant dans la feuille de route de l'équipe de France.
Il va y avoir quand même de la revanche dans l'air et ça va être sympa.
Donc c'est plutôt bien d'avoir l'équipe type face à l'Écosse. Un petit mot quand même de cette Autumn National Cup, bon, on n'en a pas vu grand chose, on espérait le match face aux Fidji. Vous avez
on
vu
a marqué
des
4 points là, t'as vu 4 points, on a marqué.
Oui.
28 points de bonus, je sais pas
quoi. 28-0.
Apparemment,
je crois,
ça, c'est pas encore officiel, mais ce serait 28-0, une victoire 28-0 sur tapis vert.
Bon, vous êtes convaincu par cette coupe d'automne des nations?
Non, parce qu'elle est inexistante, voilà, je crois que médiatiquement elle n'existe pas.
Ouais.
C'est ça qui est malheureux, mais bon, après, on sait
c'est
que ces matchs-là, c'est tout neuf.
Et puis peut-être éphémère.
Oui, éphémère, et puis ça ne représente pas grand-chose, c'est abstrait parce que elle n'a pas d'histoire. Et puis, encore une fois, on sait très bien le pourquoi du comment ces matchs se disputent. Hein. C'est pour l'oseille. Et...
Oh, je suis pas sûr, Denis. Bah oui, clairement, oui, c'est pour l'oseille.
Mais quand même, en revanche, on voit quand même des belles choses. Donc, n'oublions pas non plus, il y a du rugby à la télé. Et
oui. Enfin, quand les matchs.
Non, mais c'est vrai.
Il y aurait pu ne pas avoir de rugby du tout.
Et là, on va quand même en match de rugby.
C'est pas mal. Voilà. Après, oui, c'est pas convaincant. C'est des test-matchs déguisés avec un enjeu qu'on comprend pas trop et étalé dans le temps et on sait pas si on ira jusqu'au bout. Bon, la formule, elle paraît pas encore magique. Je pense que c'est les mêmes qui ont réfléchi à la formule de la Coupe d'Europe pour réussir à pondre un truc très simple.
Il y avait eu une Coupe latine il y a quelques dizaines d'années.
C'était très bien. Ah
ouais, c'était magnifique aussi. Ouais.
La Coupe latine, oui, c'est vrai.
Tu l'as pas joué, toi, Denis ?
Non, j'ai pas joué.
Ah, t'aurais pu la jouer à la Coupe latine. Ah, c'était l'occasion de sacrer troisième mi-temps, la Coupe latine.
Oui,
plus que les deux premières.
T'as suivi ces matchs, Christophe ?
Oui, j'ai suivi ces matchs.
Avec des France-Roumanie.
Voilà, France-Roumanie, France-Italie. C'était magnifique. Très bien. La seule bonne nouvelle, finalement, et le seul match qui pourrait être très intéressant dans cette coupe latine, mais sans être coupe d'automne des nations, c'est qu'on pourrait affronter l'Angleterre en finale, en match de classement ou en finale.
Il y a de grandes chances.
Le problème, c'est qu'on pourra pas aligner notre équipe, type là.
Ça. Ça va être super.
On va les envoyer au feu. Hein. Il y a pas de
Réchelle face à l'Angleterre.
Ah, pas les Réchelle quand même. Non, mais il y a des vrais espoirs dans ces listes. Bon, il y a du Movaca, je voulais citer des Bobigny, vous parliez de Makalou qui fait parler depuis hier et son énorme prestation au Stade français.
Cameron Rocher qui sera pas loin, Retière qui sera pas loin, Dulin qui va revenir.
Jalibert aussi, Raka qui revient, Retière, Dulin.
Et puis Ntamack qui pourrait revenir parce qu'on rappelle, l'information du jour que Ntamack est forfait pour le match face à l'Écosse.
Oh, il pourra jouer pas trop grave.
Il lui restera une feuille de match disponible.
Bien sûr.
7 à 10 jours d'absence on donne pour
Ntamack. Donc oui,
soit l'Italie,
soit jouons les Anglais. À mon avis, on le préservera pour les derniers matchs pour jouer les Anglais, c'est évident.
Très bien, nous verrons ça. Alors, pendant que la Coupe d'automne des Nations voyait le jour dans la douleur avec des rencontres que personne ou presque n'a pu voir pendant ce temps-là, dans l'hémisphère sud, le tournoi des Tri-Nations, qui oppose Australie, Nouvelle-Zélande et Argentine, connaissait un séisme samedi matin avec la victoire des Pumas en terre néo-zélandaise. C'est la première de leur histoire, un succès qui leur permet d'entrer dans un club très fermé, celui des Nations tombeuses des maîtres noirs du rugby, club de 6 qui passe donc à 7. Victoire historique alors que les conditions de préparation ont été quasi inexistantes et pourtant ils l'ont fait, s'imposant 25-15, s'il vous plaît, 25 points signés. Nicolas Sanchez, l'ouvreur des Pumas et du Stade français, joueur génial, quand il le veut, et là il le voulait, ça lui offre une victoire légendaire et le titre de frelon du week-end.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Alors, il arrive un peu en retard, mais lui aussi est lancé comme un frelon. Voici Manu Massicard, le patron de Midi Olympique. Oh, salut Manu.
Salut les amis.
Sur le terrain, en retard.
Il a,
C'est la base d'arriver en retard. Tu sais pas, toi, Wilfried. Normalement, c'est ce qu'on t'apprend au soutien. Il vaut mieux toujours être en retard qu'en avance.
Si, Wilfried le sait. Un jour, je suis arrivé en retard sur lui, sur un terrain, justement.
Tu l'as fait en retard de
moi. Tu l'as découpé, c'est ça ?
Fracture du nez. Voilà.
Oh, c'est vilain.
Oh là là, la
vengeance. C'est bien l'humour.
Alors, Nicolas Sanchez, ouvreur de son état, qui fait donc le bonheur des Pumas depuis plus de 10 ans, mais aussi celui du Stade français où il a débarqué en 2018. Bon, il faut l'admettre, il semble un peu moins efficace et efficient que le maillot parisien qu'avec celui des Pumas. Pierrot, même si son talent est évidemment intact, et il l'a montré ce samedi face au Black.
Intact, mais on avait fini par douter de la capacité de Sanchez à briller dans les grands matchs. Lui, il ouvre joueur soyeux, délicat, mais qui peine toujours face aux ogres. Rappelez-vous, lors de la dernière Coupe du Monde, hein, le Puma avait manqué de réussite au point de céder sa place à la 56e minute face à l'équipe de France et carrément perdre sa place au cours de cette Coupe du Monde. Pire, à la mène de l'attaque argentine, il a surtout connu une défaite, une série de défaites invraisemblables. 56 défaites en 80 matchs, mais surtout 9 consécutives entre septembre 2018 et septembre 2019. Les doutes avaient donc été assez logiquement présents. Les doutes qui ont été balayés par ce match historique. 25 points face aux Blacks, c'est une première depuis 11 ans et Mornestein. Et ils ne sont que 3 dans l'histoire à avoir terrassé les Blacks, à eux seuls ou presque. Le troisième étant Christophe Lamaison qui lui l'a fait 2 fois. Sanchez, symbole d'une équipe qui revient de nulle part ou presque et qui signe là son match référence sous le maillot albicéleste. Une rencontre dans laquelle il n'aura paradoxalement touché que 34 ballons. Comme quoi la valeur d'un match et plus encore d'une victoire ne dépend pas toujours du nombre de munitions qu'on a.
Alors Pierre, cette victoire a évidemment emballé toute l'Argentine qui a plus l'habitude de dégoupiller pour le foot que pour le rugby. Mais là, la presse argentine, les Pumas ont eu droit aux mêmes honneurs que les coéquipiers de Léo Messi.
Et oui, une presse argentine catégorique et unanime avec des titres que même le middle n'aurait pas osé. Historique pour la Nation, rappelant les conditions tellement difficiles pour préparer ce match. Clarine lui parle d'un match impossible à ne pas placer tout en haut des exploits du sport argentin et un titre là encore simple et clair, inoubliable. Olé parle, qui parle à peu près aussi souvent de rugby que les poteaux parlent de foot, explique qu'il s'agit là d'un match qui rentre de fait dans les annales du sport argentin. Enfin, mon préféré sur le site Parina Dossé, petite enflammade, le moment est arrivé pour briser le cours de l'histoire. Pour rappel et sans aucune malice, l'Argentine n'est plus menée que 28 victoires à une par la Nouvelle-Zélande.
Voilà, ils ont fait une partie de leur retard, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit clip des Pumas où on voit leur entraînement de manière individuelle.
C'est génial
cette histoire. Comme quoi finalement, pas besoin de rassembler des équipes pendant des mois
Marcus,
entiers
ça sert
pour
à
battre
rien.
Les All Blacks. Non, Marcus, ça sert à rien, Denis.
En même temps, tu vois, ça fait un an qu'ils n'ont pas joué, c'est ça, Pierre?
Le dernier match, c'était en Coupe du Monde, je crois.
Je crois que ça a resserré les liens, tout simplement. Ils ont vécu une aventure
incroyable. D'être séparés, ça les a rapprochés.
Non, mais après, c'est tellement argentin, en plus.
Mais tu sais que les Argentins, ils jouent sur l'émotion tout le temps. C'est des Latins comme nous. Ils ont besoin de cette émotion-là. C'est une vraie identité. Ils ont une vraie fierté au maillot, à l'attachement au maillot. Enfin, moi, je les connais bien, tu vois. Je dis mes cousins germains, parce que c'est vrai, c'est un peu nos cousins germains.
Mais Manu, leur préparation et leur résultat face aux Blacks, ça rappelle un peu notre préparation pour la victoire face au Pays de Galles il y a quelques semaines. Les Latins n'ont pas besoin de se préparer finalement pour gagner.
Ouais, ça rappelle 99 quand on les tape en ces Blacks en Coupe du Monde. Ouais. Ça rappelle tout. Ça rappelle le hold-up qu'on a failli faire en 2011. Sauf que eux sont vraiment allés au bout. Finalement, ils ont fait la guerre. Ils ont gagné la bataille des Rocks. Ils ont gagné la bataille défensive. Et puis ils ont fait trembler les Blacks qui se sont retrouvés parfois éparpillés façon puzzle sur le terrain. C'est une victoire historique. C'est pas une très très grande victoire de rugby à proprement parler, mais c'est une formidable victoire.
Et alors Michael Chica, qui est leur représentant, enfin leur conseiller au Pumas, qui le match a eu lieu en Australie, lui il a battu les Blacks déjà, Michael Chica. Il y a des joueurs qui se sont réunis 2 jours avant et des joueurs argentins lui ont demandé, lui ont posé la question, il lui a dit qu'est-ce qu'il nous faut pour battre les Blacks, et lui il a répondu rien, vous avez tout. Je trouve ça formidable et là, peut-être que dans ces mots-là, peut-être que ça a fait la différence, mais pour avoir vu le match, ils ont été héroïques. Alors, c'est pas un grand match de rugby, mais franchement, cette énergie, cet enthousiasme, ce supplément d'âme, c'est absolument incroyable.
La grinta.
Et puis, il y a quelque chose... Il y a quelque chose d'assez commun à toutes les équipes qui battent les Blacks. Ils font le match parfait face à une équipe qui ne fait pas le match parfait. C'est-à-dire que les Argentins, dès les hymnes, comme toujours, ils étaient concernés. Ouais. Et puis, on a vu que, tout simplement, en termes de solidarité, de tactique, de construction, de pragmatisme, de défense, ils ont été parfaits. Ils ont fait 100% partout. Et il n'y a que comme ça qu'on peut battre les Blacks, en les agressant, en étant pénible, comme l'a été Matera, comme l'a été la troisième ligne.
Il parle de l'émotion de Ledesma, qui est incroyable, parce qu'en fait, il y a Martin Hernandez qui est en studio.
C'était parti sur un Juan Les.
Juan Martin Hernandez qui est en studio pour ESPN, je crois, et qui s'adresse directement à Ledesma qui a joué X matchs.
J'arrive plus à parler. Ouais.
Et lui, à un moment donné, il s'arrête et il pleure. C'est incroyable. Et puis j'ai beaucoup aimé les mots du capitaine.
Et les All Blacks qui affronteront les Pumas dans 2 semaines, alors que les Pumas, justement, vont d'abord jouer face à l'Australie. Ce sera le week-end prochain. Après ce petit voyage au bout du monde, messieurs, on revient à notre quotidien, le top 14, qui a vu pas moins de 4 victoires à l'extérieur ce week-end. Le Racing à Brive à la dernière minute. Toulon sur la pelouse d'Agen, défait pour la 9e fois en 9 matchs, mais encore Toulouse à Pau. Et Bordeaux-Bègles sur la pelouse de Castres, là aussi à la dernière minute. Défaite frustrante qui a occasionné quelques mots un peu virils adressés à l'arbitre de la rencontre par Thomas Combezou, le centre tarné de la bonne boîte à gifles orale.
RMC, entre les poteaux, la boîte à gifles.
Alors avant d'expliquer les raisons de la colère, on va l'écouter, cette colère. C'était quelques secondes après le coup de sifflet final qui entérinait donc la victoire, la défaite de Castres pour un tout petit point. Et ça, Thomas Combezou a eu grand peine à l'avaler puis à le digérer.
On s'est fait entuber tout le match, hein, faut le savoir quand même. Hein. Aujourd'hui, en première mi-temps, on a arbitré Rory Cocotte, je sais pas pourquoi. On a arbitré Rory Cocotte, le moindre truc qu'ils aient, il brille. Ça me fait pas rire, c'est nul, c'est de l'anti-rugby ce qui se passe. Ça me gonfle. Parce que on fait un match correct, on est assez discipliné. Ouais, peut-être qu'on fait quelques fautes, mais on arbitre toujours le même joueur. C'est tout le temps, tous les week-ends pareil. Et la dernière fois, là, à Toulouse, c'est pareil. Quand ils rentrent, c'est pareil. Attendez. Et en deuxième mi-temps, ben, bizarrement, eux, ils font de l'anti-jeu et on les siffle pas. Ah oui, voilà. Donc, ça me fait pas rigoler, moi. Non, ça nous soulagera pas parce que c'est tout le temps pareil. Fond, l'arbitre, il a décidé de les remettre dans le match, quoi. C'est ça qui est gavant. Ça me gonfle. Voilà, pas plus. Merci. Voilà.
Gonflé, remonté, réaction d'agacement, évidemment, de frustration prise sur le fil à la sortie du match, mais qui n'a pas plu du tout à la direction technique de l'arbitrage, qui par un communiqué samedi après-midi a exprimé son mécontentement. La DTNA s'indigne des propos tenus par M. Combezou à l'encontre de l'arbitrage. De telles paroles sur un terrain de rugby n'honorent ni leur auteur ni notre sport, et nous savons que la commission de discipline de la LNR partagera cette émotion. Moyen de dire, maintenant c'est à vous messieurs de sanctionner.
Il sort juste d'une échauffourée, Christophe, aussi, il faut le dire. Il ne doit pas faire ça.
C'est juste le contexte. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'il faut lui tomber à bras raccourcis dessus pour cette réaction qui est effectivement épidermique à la sortie d'un match? Tu viens de perdre pour un petit point à la maison.
Ah, puis il vient de se mettre une peignée en plus, hein, dans l'embute, quoi. Enfin, une peignée version 2020. Hein. Moi, je les suis depuis longtemps. Cocotte, il branche, il chauffe. Voilà. Alors, la seule question est de savoir si les arbitres, à certains moments, doivent peut-être laisser passer certaines choses parce que c'est lui, parce qu'il les gonfle, parce qu'il leur monte au bourrichon pendant tout le match. Et à un moment, peut-être que certains arbitres, quand ils voient que Cocotte prend une peignée, ben ils disent voilà, c'est le retour du bâton. Ou est-ce qu'on doit tout sanctionner malgré tout? C'est le retour de bâton un peu pour les castrés, j'ai l'impression.
Ouais, retour de bâton. Il risque gros, Manu, Thomas Combezou, pour ses propos.
Je sais pas.
Est-ce que vous avez lu l'édito de Manu?
J'ai pas envie de tomber.
Il y a un très bel édito quand même. Hein.
Ouais. J'ai fait des ditos sur le chambrage aujourd'hui sur ce qui se passe parce que y en a marre de voir Combezou, il risque de payer pour tout le monde et aussi de payer pour Cocotte parce que comme l'a dit Wilfried, Cocotte il n'arrête pas de ramener sa fraise. Et aujourd'hui les arbitres sont critiqués, vilipendés par les joueurs, chambrés, provoqués et on parle trop sur les terrains de top 14, on parle trop dans les tribunes, on voit trop de gestes irrespectueux et antisportifs. Je ne vis pas au pays des bisounours, mais sincèrement, j'en ai ras-le-bol de voir ces comportements-là sur le terrain. Et si Combezou doit être convoqué, si Combezou doit être sanctionné,
faut convoquer Jalibert aussi.
ouais, et d'autres. Je me souviens la semaine dernière d'un supporter à Genève, d'un joueur à Genève, qui était en haut des tribunes et qui balançait sur l'arbitre. L'arbitre avait demandé à ce qu'il soit cité.
C'était Romain Poit.
Il est cité. Mais ces comportements-là, il y en a marre. Les joueurs, ils sont là pour jouer. Ils sont pas là pour faire les capots dans les tribunes ou pour faire la claque pour supporter leur joueur.
Oh putain, la claque sur la tête, quand la claque sur la tête ou la tape sur la tête, là, ça devient terrible, ouais, quoi, hein, parce que Yann Deleg aussi qui en parlait sur les réseaux sociaux. Vas-y, il va faire ça à Diaz et aux Toulonnais à une époque. Mais là, y a, on peut plus répondre avec la vidéo, donc la claque sur la tête. Et surtout, Christophe, tu parles de Jalibert.
Oui, alors on rappelle, Jalibert qui entre sur le terrain,
il est sorti.
Il rentre, ouais, il chambre, il tape sur la tête d'un
il bouscule Dumora. Non, il bouscule Dumora en fait, au passage.
Ouais.
Il va vers l'embute pour fêter ça, et il bouscule Dumora. Et après le match, il dit, j'ai pas fait exprès, je lui ai rentré dedans. Non, mais vas-y, dis-le.
Ah, c'est un barbarien. On ne touche pas au barbarien.
Est-ce que ça, c'est
du coup, ça déclenche réchauffement?
Hein, c'est très barbarien,
c'est Mathieu. Ah, mais c'était un peu tendu, mais attends, il y a 20 ans, on se mettait des coups de pompe dans la tête.
Il y a quand même, il faut dissocier, à mes yeux, hein, ce qui se passe sur le terrain, qu'on a le droit de critiquer. Le chambrage, les tapes sur la tête, les trucs qui rendent fou. Je pense que j'aurais jamais pu être pro, parce que déjà, j'avais pas le talent, mais je pense qu'au bout de deux matchs, je prenais perpète, parce que là, tu mets une tape sur la tête après une mêlée, je t'enquille. Mais surtout, il faut dissocier ça de ce qui se passe en dehors du terrain. C'est-à-dire que Combezou, il est à chaud.
Dans un stade vide. En plus.
Et puis, Combezou, on lui tend le micro, il est à chaud, il vient de prendre une branlée, il perd à la maison, il a le sentiment de s'être fait voler. Moi, je trouve que c'est critiquable, c'est pas bien, fallait pas le faire. Mais je trouve que la réaction de la DTNA, elle est grave parce que eux, ils réclament à froid dans un communiqué relayé par la Fédé la sanction d'un joueur qui a parlé à chaud. Je veux dire, monsieur Castagnette, sur le match, il a peut-être fait un bon match d'un point de vue purement règle, arbitrage, application du règlement, mais d'un point de vue humain, il a été assez moyen, comme mais... souvent d'ailleurs avec monsieur Castagnette. Moi, je me rappelle de lui en Pro
D2. Oula, là, tu vas prendre
un
rouge.
Il faut aussi.
Ça dérape.
Les arbitres sont humains. Ils ont le droit d'avoir des moments où ils se trompent. Des moments où ils se trompent, que ce soit dans la règle ou dans la façon de gérer un match. Ça, on a le droit de dire qu'ils sont humains, ils peuvent faire des erreurs et c'est leur défense principale. Eux, ils disent, nous, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on a le droit de faire des conneries. C'est vrai. Je pense que M. Castagnette, dans ce match précis, dans ce contexte précis, dans cette ambiance précise, il a peut-être fait une erreur de gestion du match et de gestion des joueurs. C'est quand même un arbitre que j'ai vu en Pro D2 s'adresser à un deuxième ligne à la 78e et dire, vous ne comprenez rien, et lui mettre 10 mètres et un carton jaune. Je pense que dans la psychologie, on peut faire un petit peu mieux, et je pense que s'adresser à...
Tu as sans doute raison sur plein de choses, mais aujourd'hui, ce ne sont pas les arbitres qui sont responsables de la situation. Les joueurs, il y a des comportements en dehors du terrain, et pour moi, comme je te rejoins, c'est beaucoup plus grave, qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas acceptables. Quand tu as des joueurs qui passent leur temps à chambrer, quand tu as des remplaçants qui se jettent sur le moindre mec qui marque un essai, alors qu'il ne devrait pas rentrer sur le terrain, je suis désolé.
Manu, on est d'accord, mais je pense qu'il faut revoir le contexte général. Je crois qu'un match à huis clos, c'est très compliqué pour tout le monde, pour les acteurs. Je le vois, moi j'étais encore...
Tu ne peux pas chambrer sans te faire...
Non, mais j'étais au stade hier, parce que avec RMC, on était au stade français à La Rochelle.
J'ai pas envie d'en parler.
Tu entends... Non, mais tout le monde dit son avis, tout le monde parle, et personne ne dit rien. Vous savez qu'il y a du chambrage partout.
Et puis on entend tout.
Je vous assure, on entend tout. C'est assez désagréable, parce que justement...
Tu peux même plus critiquer les joueurs.
Je suis sérieux. Et je pense que ces tensions-là, mais fait qu'à un moment donné, un Combezou, il craque, qu'un Jalibert craque. Et je pense qu'il faut prendre le contexte en compte. Je pense sincèrement que le huis clos n'est pas très bon. Voilà, n'est pas très bon parce que...
Pour l'esprit, oui.
Pour l'esprit,
il est pas très bon. Mettons le spectateur, alors.
Bon pour rien.
Et pourtant, il est fantastique parce que notre sport continue à vivre.
Messieurs, nous approchons du terme de notre partie. Un petit côté fermé pour finir, ça vous dit ? Allez, c'est parti pour les dernières infos du monde de l'Ovalie.
RMC, entre les poteaux. Côté fermé.
Alors Wilfried, depuis 48 heures, veut à tout prix qu'on parle de son chouchou, Maxime Médard. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait. T'es subjugué complètement par le Toulousain.
Non, mais...
Il t'a hypnotisé ou quoi ?
Non, c'est pas ça, mais je voulais parler du match de Maxime Médard parce qu'il a 34 piges aujourd'hui, en plus, ça tombe bien. Et surtout, il a été un peu au frigo. Il a été, non, même pas en plus, je m'en suis rendu compte comme ça après. Il était au frigo un peu en début de saison. Et pour ceux qui ont vu le match du Stade Toulousain à Pau, ce mec-là, qui a 63 sélections, qui a joué 2 Coupes du Monde, qui a 4 boucliers de Brennus, 1 Coupe d'Europe, non seulement sur le terrain, il a sonné la révolte avec un essai, mais en plus, ce qui m'a frappé surtout, c'est derrière, quand il est sorti, pour ceux qui ont vu les images, il était comme un junior dans les tribunes à encourager ses coéquipiers à être comme un fou. Et moi, je trouve qu'un mec qui a 17 saisons au plus haut niveau, qui, lors d'un simple match comme ça, la saison régulière, est toujours acharné comme ça pour aller chercher la gagne, et après, ce qui lui est arrivé en début de saison, où il n'était pas invité, et ben, il était capitaine, là, Hugo Mola l'avait mis capitaine. Moi, je trouve ça, franchement, admirable de la part d'un ancien, parce que maintenant, c'est un ancien, il est près de la fin. Et je voulais juste souligner ça, qu'en termes d'abnégation, en termes de gagne, de volonté, il a une carrière un peu, un des moments c'était un peu tortueux pour lui, Maxime. Il a loupé peut-être quelques sélections, enfin il en a quand même 63, c'est pas mal. Mais c'est, voilà, il est à l'aune de sa carrière. Et moi, je voulais souligner ça. D'avoir, et ça a montré aux plus jeunes qui arrivent dans ce boulot, dans ce métier de rugbyman professionnel, d'avoir toujours cette grinta à 34 piges, bah, moi, je dis chapeau.
Chapeau. Est-ce qu'il va suivre le même chemin que Johan Hugé ou il a décidé de
poursuivre un... Il lui reste une saison en option. Donc, c'est à décider aussi avec le club. Donc, il l'a dit, hein, si c'est ma dernière, c'est ma dernière. S'il m'en reste un an ou deux ans, je ne sais pas encore décider. Moi, je trouve que c'est quand même précieux d'avoir son expérience, même s'il ne joue plus tous les matchs titulaires. Voilà, dans un groupe, voilà, et avec l'expérience qu'il a, il est très important.
Alors, on a évoqué l'édito, le magnifique édito de Manu Massicard il y a quelques instants. Manu, si tu voulais nous vendre Midi Olympique du jour, qu'est-ce que tu nous parlerais de quoi ? Qu'est-ce qu'on peut trouver de très bon aujourd'hui
dans Midi ? Les Pumas, j'espère.
Pardon, ouais, bien sûr, les Pumas, évidemment. L'info Carbonel, qui RMC a annoncé ce matin que Romain Tamac était blessé et que le jeune Carbonel allait le remplacer en équipe de France. Notre info Carbonel, pour compléter, c'est que Carbonel est aujourd'hui parti pour rester à Toulon, lui qui était en fin de contrat à la fin de saison.
D'accord.
Et il se dirige, les négociations se dirigent vers une prolongation. Ça, c'est une info importante pour le RCT. C'est aussi un signe important pour le rugby français, tout simplement. Les jeunes joueurs restent dans leur club. Bon, il y a des négociations financières, évidemment, qui entrent en ligne de compte. Mais voilà, on n'a pas des surenchères en permanence et c'est plutôt un bon signe.
Ouais, on aurait bien aimé voir, justement, après avoir vu la charnière toulousaine, peut-être voir la charnière toulonnaise en équipe de France. Ce sera peut-être le cas pour le match face à l'Italie dans quelques jours. Très bien, voilà, nous sommes au bout de notre podcast. Merci messieurs pour votre contribution. On espère, Denis, que tu pourras commenter un match au week-end prochain
avec
Wilfried.
Hein, avec toi. Hein.
Et surtout, ne dites pas de mal des joueurs parce qu'on vous entend. Hein,
donc des joueurs, de quels joueurs?
Oui, vous balancez.
Attends, on est soutien, surtout quand ils sont bons. Quand ils sont bons, on dit qu'ils sont bons. Quand ils sont mauvais, mais on dit qu'ils sont des pompes.
Merci. Merci, messieurs. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Entre les poteaux. Bonne semaine.